Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour madame.
Comment on reste au marché là? Arrivez, on va gongonner, parler aux gens.
Là, vous étiez au marché?
Oui. C'est une femme là qui parlait qu'il y a consultation gratuite ici. 2 euros à 15. Comme je tenais mes deux enfants hier, dit bon, je vais venir les consulter.
Et elles ont quoi vos filles, vous?
Ah, par exemple celle-là, chaque mois elle tombe malade au moins 2 fois. Je ne sais pas ce qu'elle a. Je ne suis pas médecin. Elle aussi, souvent, elle commence la fièvre, son urine est café. Ça aussi, ça m'inquiète un peu. C'est pour ça que je suis venue. Comme il y a les médecins, je suis venue pour les montrer. Ils vont voir ce qu'ils peuvent faire pour que la petite ne souffre plus. C'est ça.
Bonjour à toutes et à tous. Comme cette mère de famille, ils étaient nombreux, ses parents, à venir pour des consultations gratuites destinées aux enfants. C'était fin juin à Dapaon, tout au nord du Togo, à plus de 600 km de la capitale Lomé. L'ONG La Chaîne de l'Espoir, organisée avec les médecins du service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, une mission foraine d'une semaine dans cette ville de Dapaon, oubliés du système de santé. Objectif de cette mission, opérer un maximum d'enfants dans un minimum de temps et permettre à ces enfants de la brousse, comme les appelaient les médecins, de retrouver la santé mais aussi le sourire. Hydrocèle, hernie, séquelles de brûlure ou maladies osseuses, au total 159 enfants ont pu consulter un médecin et 84 d'entre eux ont pu bénéficier d'une opération chirurgicale. Une goutte d'eau tant les besoins sont importants en matière de santé infantile dans un pays qui ne compte que 5 chirurgiens pédiatriques. Mais c'est aussi une nécessité et surtout une prouesse vu la vétusté de l'hôpital de Dapaong. Aujourd'hui, nous vous proposons donc de vivre de l'intérieur cette mission de la chaîne de l'espoir. L'occasion également de faire le point sur la chirurgie pédiatrique et la formation des médecins spécialistes au Togo avec ce reportage signé Igor Strauss.
Priorité santé sur RFI.
Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Vous avez donc suivi toute l'équipe du service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio à Lomé. Il s'agit du principal hôpital du pays.
Oui, un service dirigé par le professeur Niasingbe, qui est également en charge de la formation des chirurgiens pédiatres au Togo. En tout, il y avait 16 personnes, dont le professeur Niasingbe, 2 chirurgiens pédiatres béninois, mais formés au Togo, 4 étudiants en DES, le diplôme d'études spécialisées, c'est le diplôme qui, après 7 années d'études de médecine, permet de devenir chirurgien en 5 ans, soit 12 années d'études en tout. Également 3 techniciens anesthésistes et une médecin anesthésiste bénévole du CHU de Grenoble en France, 3 instrumentistes et une secrétaire, et pour coordonner le tout, il y avait le chef de programme de la chaîne de l'espoir, Prosper Adigbli.
Alors on imagine que tout cela nécessite une grosse organisation.
Eh bien Prosper Adigbli me disait qu'il lui fallait plus de 3 mois pour organiser une mission d'une semaine. Il faut déjà faire une première mission exploratoire dans les centres hospitaliers des régions sélectionnées, donc ici Dapaong, afin d'évaluer les conditions d'accueil, le personnel médical et l'état du plateau technique qui est souvent très faible en dehors des capitales. Ensuite, il faut commander tout le matériel et les médicaments et surtout ne rien oublier et enfin acheminer tout cela à Dapaong.
Alors ce n'était pas, Igor, la première mission foraine organisée au Togo, puisque ce programme baptisé Santé Togo existe en fait depuis 2012.
Exactement, et la chaîne de l'espoir essaye de programmer 2 missions par an dans le pays. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du fait d'opérer des enfants, ce qui est déjà très bien, ces missions font partie intégrante de la formation pratique des médecins étudiants en DES, donc le diplôme d'études spécialisées en chirurgie pédiatrique.
Et Igor Strauss, on vous retrouve donc à Dapaong lors du premier jour de cette mission.
Bonjour.
Bonjour.
Oui. Et s'il te plaît, quel est le nom de l'enfant?
Ponsatidia. Ponsatidia.
Ponsatidia. Son âge, s'il te plaît?
6 ans.
Comment vous avez appris que nous venons pour opérer?
Bon, c'est à la cathédrale qu'on a appris ça, à l'église. Oui.
Donc, vous attendez ici?
Je vais prendre la quatrième personne et je vous conduis maintenant chez le médecin pour la consultation.
Bonjour.
Bonjour. Moi, c'est Yaninim Lydia. Je suis instrumentiste. Comme c'est une équipe, nous sommes chargés d'enregistrer les patients avant de les envoyer au chirurgien pour la consultation.
Alors là, on est dimanche matin, on est à l'hôpital de Dapaong.
Oui.
Et effectivement, il y a plein d'enfants et plein de parents réunis.
Puisque avant qu'on arrive, ça a été annoncé à la radio, à l'église, à la mosquée, que nous devons venir pour des interventions foraines. Et donc, progressivement, je pense que les enfants vont arriver. Ouais.
Donc, il y a les petits carnets de santé jaunes.
Oui, oui, oui. Ça, c'est avec ce carnet, on les enregistre. Et tout ça, là, c'est valable du début de la consultation jusqu'à à l'opération. Puisque après l'opération, on met le compte rendu opératoire dans le carnet. Et les indications, c'est-à-dire les produits à prendre après l'intervention. Ouais. Ok.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Ça va?
Très bien.
Alors là, vous êtes avec votre petite fille de 6 ans. Qu'est-ce qu'elle a, votre petite fille? Pourquoi vous l'emmenez ici?
C'est un excès que on a eu ça depuis l'enfance.
Et un abcès?
Oui.
Et vous n'avez pas pu voir des médecins avant? Ils vous ont débarrassé avant?
Bon. Ils nous ont conseillé de faire l'opération à l'enfant. Bon, ils ont parlé des moyens là qui nous ont un peu choqués là.
Ils ont parlé de combien?
Dans les 80 là, ça, là, ça marche là.
Ah, dans les 80 000 on vous demandait pour l'opération?
Oui.
Ah oui, donc c'était beaucoup d'argent.
Vraiment.
Et vous faites quoi comme travail vous?
Je suis mécanicien auto.
Et madame, elle travaille aussi?
Oui, elle est commerçante.
Et comment ça se passe la vie? Vous pouvez vivre avec le métier ou pas?
Vraiment, c'est un peu dur. Hein? C'est un peu dur.
Qu'est-ce qui manque?
Le manger autrement, on ne peut pas dire que ça m'en manque quand même. Mais à la rigueur, il y a des fois aussi que c'est un peu difficile.
Manger, c'est un peu difficile des fois?
On se débrouille comme ça et puis on attend. Si on prie Dieu, Dieu nous donne le jour. Arrive. On remercie Dieu.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
D'accord, bonne arrivée. À moi, c'est le docteur Serge Metingbe. Je suis chirurgien pédiatre. Qu'est-ce qui vous amène à l'hôpital?
C'est ma fille. Des fois, elle a sur la jambe gauche, sur son sexe. Des fois, il y a des boules qui sortent.
Ça lui fait mal en ce moment?
Bon, ça ne la fait pas mal. Mais quand ça apparaît, elle n'arrive pas à manger, elle ne fait que vomir.
Depuis la naissance que vous avez constaté ça?
Bon, c'est quand elle a commencé pas à marcher qu'on a constaté ça.
D'accord. D'accord. On va examiner l'enfant. Vous la déshabillez. Bonjour ma chérie, ça va? Faut pas avoir peur, hein? Tout me dit bonjour. Hein? Inguinale droite et ni ombilical. Et ça là, au niveau de l'ombilical, ça ne vous inquiète pas?
Oui, ça là, des fois aussi, quand ça quitte, elle fait que vomir.
Normalement, ça aussi, c'est une pathologie dont il faut s'occuper également. Donc, c'est une hernie ombilicale de petit volume, hein, simple, et une hernie inguinale droite chez une fillette de 6 ans. C'est bon, vous pouvez l'habiller. Donc, on va l'opérer l'enfant pour sa hernie ombilicale et pour sa hernie inguinale. Donc, comme c'est un enfant qui est encore en bas âge, 6 ans, on va devoir l'endormir complètement, l'opérer pour les deux et réveiller l'enfant. Donc, c'est un truc qui va durer à peine 45 minutes maximum. Si vous comprenez. Donc, ça va être fait probablement demain. Ça peut aller.
Il n'y a pas de problème.
Vous allez dormir à l'hôpital ce soir. À partir de minuit, l'enfant ne mange plus, ne boit plus. Demain matin, vous la lavez correctement et on va l'opérer. Ça peut aller.
Ça peut aller, il n'y a pas de problème.
Ça, c'est pas un problème pour vous, monsieur?
Il n'y a pas de problème pour ça.
Ce sera vous, ce sera madame qui va venir alors?
Madame va venir alors.
Donc, vous avez vu, c'est pas un gros problème, ça vous rassure un peu?
C'est ça, oui, ça m'assure un peu. Maintenant, c'est mieux.
Il y a beaucoup de hernies, hein, docteur?
Oui, la plupart des... Enfin, lors des missions foraines, on opère beaucoup plus les hernies. Beaucoup plus les... Et puis, vous allez voir, c'est des enfants qui ont eu ces pathologies, qui traînent depuis longtemps, souvent pas plein de moyens. On n'arrive pas à les opérer. Donc, les missions foraines sont bien indiquées pour pouvoir opérer ces enfants-là.
Mais comment vous expliquez un si grand nombre de hernies?
Il faut dire que les hernies sont très fréquentes chez les enfants. De façon épidémiologique, c'est comme ça. Parce que, vous savez, quand on suit l'embryologie des testicules, les testicules naissent embryologiquement au niveau lombaire et vont descendre progressivement au cours de l'embryogenèse, au cours de la grossesse, et venir jusqu'au niveau de la bosse autour de l'âge de 7 mois de vie intra-utérine. Donc, à la naissance, normalement, le canal par lequel ce testicule a pris part pour venir en bas doit être fermé. Donc, mais pour certains enfants, ça ne se ferme pas. Mais on laisse le privilège parce que l'organisme même peut faire fermer ce canal jusqu'à l'âge de 1 an. Donc si après 1 an, ce canal persiste, il va falloir aller le fermer chirurgicalement.
Et s'il ne se ferme pas, c'est ce qui crée les hydrocèles ou les hernies?
Ou les hernies selon le calibre de ce canal-là. Voilà. Ces missions sont souvent les bienvenues pour pouvoir aider des patients du genre qui ont des affections qui peuvent être compliquées à tout moment. C'est une hernie qui peut s'étrangler à tout moment. En fait, il y a un canal qui fait communiquer la cavité abdominale et le scrotum. Par ce canal, les intestins, les sens intestinaux peuvent passer.
Donc, ça peut... Ce qui crée la petite boule.
Voilà, ce qui crée la petite boule là, qu'on voit. Mais là, il peut arriver que ces intestins passent dans le scrotum et n'arrivent plus à remonter parce que pour une raison ou une autre, une inflammation, il y a le colis qui est serré. Donc ces sens intestinaux peuvent se nécroser.
Ça fait une occlusion intestinale et là, on peut décéder en 24 heures, ça?
Voilà, donc ça devient une urgence en réalité. Et si on n'opère pas rapidement l'enfant, surtout s'il y a un problème de moyens, il les entraîne encore, ils font des traitements traditionnels, ça peut se compliquer, péritonite, et ça peut entraîner un décès. Donc c'est pour ça que ces missions sont les bienvenues, pour pouvoir opérer ces enfants-là à temps.
Justement, généralement, pourquoi ces jeunes patients n'ont pas été opérés? C'est uniquement une question de moyens ou il y a d'autres raisons?
Bon, il y a également le côté traditionnel de la chose. Certains pensent que leurs enfants ne doivent pas être opérés. Pour eux, endormir quelqu'un et le réveiller, c'est déjà quelque chose de trop. Donc pour eux, il y a certains patients qui vous diront carrément qu'ils n'aimeraient pas que leur enfant soit opéré. Maintenant, il y a d'autres, c'est pour des raisons religieuses. Il y a certains pasteurs qui disent à leurs fidèles que Dieu est capable de tout, que Dieu peut guérir et que donc on ne doit pas opérer.
Donc ça vous complique la tâche à vous, médecins?
Ça complique énormément la tâche. Patient suivant, s'il vous plaît.
Igor Strauss, il y avait donc beaucoup d'interventions sur des hernies.
C'était le principal motif de consultation et d'opération, puisqu'il s'agit d'opérations très simples, donc réalisables avec un plateau technique faible. Malheureusement, de nombreux enfants ne pouvaient pas être opérés. On retourne en consultation avec le docteur Désiré Miafo, un médecin camerounais en quatrième année de DES, le diplôme d'études spécialisées.
Et depuis la naissance, c'est ça?
C'est là. Il nous faudrait un traducteur.
Donc là, on a une maman qui est venue avec sa toute petite fille, qui a comme, alors je ne sais pas comment vous dire, une masse, un kyste, une tumeur, je ne sais pas, assez prééminente au niveau du nez.
Oui, effectivement. À coup sûr, c'est une masse congénitale et ça prend du volume. Vu la coloration...
C'est assez noir.
C'est assez noir. C'est probablement... c'est soit une masse, c'est soit un hémangiome, soit un lymphangiome. Mais vu la localisation... sur le plan esthétique, ça peut être embêtant pour les parents parce que voilà, c'est au niveau du nez, ça déforme un peu le visage et puis voilà, il faut faire quelque chose pour déjà rassurer les parents, mais également pour l'enfant parce que ça ferait également partie de son image, de sa beauté physique plus tard. Je regarde un peu cette masse. Tu l'as déjà vu?
Oui, c'est un hémangiome.
Je pense que c'est un hémangiome plutôt.
Je pense qu'il faut prendre les dispositions, la mettre sous propanolol.
Donc le médicament qu'on met, en fait, a des répercussions, peut avoir des répercussions au niveau du cœur. Donc on est obligé de demander une consultation cardio pour s'assurer qu'au niveau cardiaque, l'enfant peut supporter ce médicament sur le long cours. Voilà.
C'est fou parce qu'avec toute la meilleure volonté du monde, vous êtes quand même limité.
Limité.
Là, il y a plein de choses finalement que vous ne pouvez pas faire malheureusement.
Oui, effectivement. Quelquefois, soit c'est le matériel même qu'on n'a pas ramené ou bien qu'on n'a pas. Quelquefois, c'est le plateau technique même de l'hôpital qui nous reçoit. Et quelquefois, il s'agit de pathologies pluridisciplinaires où il faut absolument un avis ou bien associer une prise en charge d'un collègue d'une autre spécialité qui fait qu'on est limité. Mais voilà, on essaie toujours quelquefois de faciliter la prise en charge à ces enfants-là qui ont besoin de soins. Je vais chercher un traducteur pour la maman. Je vais chercher un traducteur pour pouvoir lui expliquer ce qu'on fera.
Cette petite fille n'a donc pas pu être opérée, faute de cardiologue.
Oui, au grand désespoir de sa mère d'ailleurs. Il y avait de nombreux cas qui n'étaient pas opérables à Dapaong. Alors j'ai vu des enfants avec des fentes labiopalatines impressionnantes. C'est ce qu'on appelle injustement les becs de lièvre. Hein, ou d'autres enfants avec des grosses tumeurs. Tous ces cas doivent être pris en charge à Lomé. Avec, vous l'imaginez Caroline, le gros problème du transport pour se rendre dans la capitale. Il y a aussi des cas simples qui ne sont pas opérés. Le professeur Nyasingbe, par exemple, a refusé d'opérer un enfant qui avait des examens à l'école pendant la semaine. Comme il n'y avait pas d'urgence, il a jugé que sa scolarité et donc son avenir étaient plus importants que l'opération.
Alors, dans quelles conditions Igor travaille, hein, ces chirurgiens de Dapaong tout au long de l'année. Le docteur Tchala est chirurgien généraliste dans cet hôpital.
Les moyens, sincèrement, il n'y en a pas. D'abord, les pinces, le matériel, c'est vieux. Du coup, c'est difficile de travailler avec. Bon, le bloc, ce n'est pas exactement ce qu'il faut au bloc, quoi. La lumière, les tables d'anesthésie, c'est un peu difficile.
Je sais que c'est un vieil hôpital assez délabré, il faut le dire.
Oui, c'est un vieil hôpital assez délabré.
Alors du coup, comment faites-vous pour gérer l'afflux des patients avec des pathologies plus ou moins graves? Qu'est-ce qui se passe du coup?
On se bat. Là, c'est ce que je peux dire. On se bat, on fait avec les moyens qu'on a. C'est difficile, très difficile.
Alors, heureusement, l'équipe du professeur Nyasingbe est venue de Lomé. Oui. Vous avez sollicité son aide là ce matin. Ben, je vous laisse gérer entre vous, puis je vous poserai quelques questions.
Ok, merci.
D'accord. Qu'est-ce qu'il a?
On m'a dit que c'est le thermorégie ou bien pas.
Ostéomyélite. Voilà, c'est une infection de l'os. Hein? Infection de l'os, probablement que l'enfant avait une plaie quelque part, ou bien il avait un problème au niveau de la gorge ou au niveau des oreilles que vous n'avez pas bien traité. C'est pour ça que dès que votre enfant fait de la fièvre, hein, quel que soit le cas, vous allez voir d'abord le docteur. Si on fait comme ça, le médecin, si c'est une infection de l'os, ne va pas vous donner les médicaments de palu, mais des antibiotiques.
D'accord.
Et on va voir les radios et puis on va voir ce qu'il faut faire.
Allez.
Voilà, cet enfant a fait une ostéomyélite chronique.
C'est-à-dire?
C'est une infection de l'os par voie hématogène. C'est-à-dire que l'enfant peut avoir une infection ORL. À partir de là, le germe va regagner le sang, donnant ce qu'on appelle une septicémie, et aller se fixer sur un os. Et habituellement, c'est au niveau de la métaphyse où la circulation est ralentie et où le germe peut se fixer. Et c'est à partir de là que ce germe va commencer à faire une diffusion, à faire des dégâts. Et comme on peut le constater sur la radio, il y a pratiquement le tiers et la partie proximale du tibia qui présente des séquestres. Donc il va falloir, en opérant, il faut enlever le séquestre. Et il faut reconnaître que la prise en charge de ces pathologies reste très très compliquée, très difficile. Déjà, nourrisson de son âge,
Parce qu'il est tout petit, s'il a à peine 6-7 mois.
6-7 mois, oui. Donc, le risque pour cet enfant sur le plan pronostic fonctionnel, seulement va être très court. et avec une raideur au niveau du genou.
Donc il boitera, il aura une jambe plus courte.
Oui, il va avoir une jambe courte. Et puis, dès qu'on a une inégalité de longueur, c'est une des causes de boiterie. Et il va boiter. Donc, c'est mal parti, si je peux me permettre ce terme. Mal parti pour cet enfant. Et notre combat actuel dans le pays, c'est de sensibiliser les gens pour éviter ce genre de complications sur le plan des infections osseo-articulaires. Et que nos collègues, parfois les parents médicaux, ne savent pas prendre en charge. Dès qu'un enfant fait la fièvre, comme j'expliquais à la maman tout de suite, la première cause à laquelle on pense, c'est le palus. Et on met des traitements anti-palus, alors que au fond, il y a un germe qui est en train de donner cette fièvre-là. Et donc pour ce nourrisson, il va falloir l'opérer.
Mais opérer ici à Dapaon, ce sera possible avec le plateau technique disponible ou pas?
On a amené un certain nombre de choses. Oui, on pourra le faire. Sinon, c'est à Lomé. Et vous voyez, quitter Dapaon pour venir à Lomé, les frais de déplacement. Arriver à Lomé, il faut que quelqu'un soit là pour héberger la dame. Il faut qu'elle mange et tout ça. Vous voyez la difficulté.
Ouais, c'est compliqué. Hein.
Oui, très. Donc, madame, on est là jusqu'à vendredi. On va profiter pour mettre l'enfant dans le programme. Donc, tu n'auras à dépenser 0 francs. Mais par la suite, on va voir avec Tchala comment on va procéder. Mais pour l'instant, on va opérer ton enfant gratuitement.
J'ai compris.
Alors, docteur, j'en reviens à vous. Vous êtes donc de l'hôpital de Dapaong. S'il n'y avait pas eu la mission foraine avec l'aide du professeur Niasingbe, qu'est-ce que vous auriez pu faire pour ce jeune nourrisson?
On va essayer d'arranger la partie rongée, mais c'est difficile de s'en charger nous-mêmes.
Et comment vous mesurez le facteur risque, vous, en tant que médecin? Parce que des fois, ne rien faire, c'est condamner l'enfant, mais opérer avec un risque, c'est délicat à trancher, non?
C'est très délicat à trancher, mais le mieux, c'est de faire toujours quelque chose, au lieu de ne rien faire.
Est-ce qu'il vous arrive, malheureusement, de perdre des enfants, finalement?
Oui, oui. Oui, il nous arrive de perdre des enfants. Oui. Malheureusement.
Priorité santé sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes à Dapaong, tout au nord du Togo, pour suivre une mission de chirurgie pédiatrique organisée par l'ONG La Chaîne de l'Espoir avec les chirurgiens du centre hospitalier de Tokoin à Lomé.
Konsatija, Tani, Clarisse, Lare, Yendangma, Chame, Pewanja, Aruna Arafat.
Oui, c'est bon.
Voilà, donc la liste là, c'est pour demain.
C'est pour demain, c'est bon.
Mais maintenant, l'anesthésiste va venir vous donner les consignes à partir de quelle heure vous allez cesser de faire manger les enfants. Donc, patientez une minute, je vais appeler l'anesthésiste, elle vous donne les consignes avant le départ.
Hier, c'est nous qui étions le premier ici. J'étais la première ici pour venir.
Vous avez été reporté à demain? Ça vous arrange pas?
De la santé de mon enfant.
Bon, c'est à cause du petit problème à l'anesthésie, c'est ça? Si vous avez dû décaler les opérations?
Exactement. C'est pour ça. Et en plus, ça permet d'aller sûrement. Parce qu'on a accusé déjà un petit retard. Et tous ceux qui sont programmés, s'il faille les prendre, on risque d'aller plus tard. Donc, tous seront pris quand même. Il suffit d'une légère patience.
Alors, monsieur, vous savez si c'est demain ou aujourd'hui, vous?
C'est demain.
Bon, ça va quand même?
Ah, ça va. S'ils ont dit de revenir demain, nous, on est obligé de partir et revenir demain. Ça ne nous embête pas.
Et il y a donc eu un report d'opération.
Oui, les deux tables d'opération avaient des problèmes. Il a donc fallu les réparer, mais tout s'est fait dans la sérénité et la bonne humeur. Et finalement, les opérations ont débuté dans la bonne humeur également. Docteur Françoise.
Ah, je ne suis pas docteur, moi.
Madame Françoise.
Ça aussi, c'est sorti, hein.
Vous êtes anesthésiste alors?
Oui, je suis technicien supérieur d'anesthésie.
Est-ce que c'est compliqué le métier d'anesthésiste ici au Togo?
C'est stressant parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour faire une anesthésie.
Même Malomé?
Bon, actuellement, la chirurgie pédiatrique peut faire l'anesthésie. Un peu plus ou moins. Mais dans les autres, ça, c'est pas la même chose. On se débrouille avec nos moyens. Parce que vous allez voir, dans d'autres, ça, il n'y a pas de respirateur. Pour faire une anesthésie générale d'une durée de 5 heures, c'est compliqué.
Est-ce qu'il y a suffisamment d'anesthésistes pédiatriques ici au Togo? Comment ça se passe?
Il n'y a pas d'anesthésistes pédiatriques au Togo.
C'est un problème, ça?
Un grand problème. C'est un grand problème. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est formé pour faire l'anesthésie pédiatrique. Et même les médecins anesthésistes, le nombre est limité. Ils sont combien? C'est 5, non? 6 pour tout le pays. Donc, c'est compliqué.
Pardon, on va pouvoir l'emmener dans sa chambre.
Il y a un petit qui a été opéré qui se réveille?
Oui. Je me demande ce qui lui arrive quand même, hein, puisque là, il est entre au moment du réveil, il retrouve un peu cet environnement qui est inconnu. Donc, le temps qu'il réalise un petit peu. Où il est.
Docteur Chantal Chazelet, donc vous êtes médecin anesthésiste, hein, venu de Grenoble. Au Togo, il n'y a pas de médecin anesthésiste spécialisé dans la pédiatrie. Est-ce que ça, c'est un souci? Vous qui êtes spécialisé dans la pédiatrie, qu'est-ce que ça change finalement, le fait d'endormir des enfants, voire de très jeunes enfants?
En France, l'anesthésie pédiatrique des enfants de moins de 1 an n'est faite que dans les centres référents. Ici, donc effectivement, ce sont essentiellement les techniciens d'anesthésie. Donc ce sont des infirmiers anesthésistes, mais avec des compétences plus importantes que les infirmiers anesthésistes en France, qui s'occupent essentiellement de la pédiatrie. Donc le but, en fait, de cette mission, c'est quand même de leur apporter un peu mes compétences en anesthésie pédiatrique, tout en restant quand même dans le contexte local. C'est-à-dire qu'on peut leur apprendre certaines techniques, mais avec le matériel qu'ils ont.
Bon, et pour l'instant, depuis 2 jours que vous êtes au bloc, tout se passe bien, pas de complications particulières, pas de...
Hier, en fin d'après-midi, on a eu un petit souci de petite inhalation bronchique. Hein, c'est un peu de liquide gastrique qui remonte au niveau des poumons. Mais là, il n'y a pas eu de conséquences pour l'enfant. Je l'ai ausculté ce matin, il va tout à fait bien. Par contre, nos respirateurs ne fonctionnent pas, donc on est obligé d'être assez vigilant quand même, parce que... Les habitudes de France, on met sur respirateur, on s'occupe de plus rien, enfin on s'occupe de plus rien, alors que là, il faut quand même vérifier que l'enfant respire tout seul et tout.
Est-ce que ça génère un stress en plus, du coup?
Peut-être une concentration un peu plus importante que d'habitude, qui est déjà assez importante, quoi. D'être beaucoup plus vigilant et de se recadrer dans le contexte local et dire, voilà, il faut que je regarde s'il respire ou pas, quoi.
Merci. Et c'est donc le docteur Serge qui est aux manettes.
Bonjour, monsieur Igor.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire, très concrètement?
C'est une hernie inguino-scrotale gauche chez un garçon de 15 ans. C'est une hernie qui, selon les parents, évolue depuis la naissance. Comme c'est un enfant, c'est un adolescent de 15 ans, ça a quand même entraîné une certaine faiblesse de la paroi. Donc, nous allons faire la fermeture du canal péritono-vaginal. Également faire un renforcement de la paroi. Donc les étapes sont les suivantes. On fait une incision de la peau au niveau inguinal et aboutit au niveau de l'orifice superficiel du canal inguinal. Isoler le sac contenant les éléments de la hernie. Ensuite, nous allons les ligaturer, nous allons les fermer. Après avoir fermé cela, maintenant, on va renforcer la paroi selon la technique de Bassini, très simplement.
Donc une opération simple pour vous?
Simple, oui. Ce que vous voyez là, c'est ça, le canal péritono-vaginal que nous avons sectionné. Maintenant, nous sommes en train de le disséquer vers le haut pour pouvoir le ligaturer le plus haut possible.
C'est quand même impressionnant à voir quand on n'est pas un habitué. Hein.
Bon, surtout pour vous.
C'est peu de le dire. Docteur Ingrid, donc vous êtes étudiante encore en DES. Hein. C'est votre combienième patient que vous opérez? Vous savez à peu près?
Non.
Il y en a déjà beaucoup?
Oui, beaucoup.
Donc vous avez l'expérience, quoi.
Non. On cherchait encore la main.
Donc ce type de mission foraine, c'est un plus quand on est étudiant encore en DES?
Oui, effectivement.
J'ai l'impression que c'est pas non plus. Son âge doit dépasser 15 ans. Là. Alors que nous, la mission c'est 0 à 15 ans. Il a beaucoup profité alors.
Il y en a qui diminuent exprès quoi.
Ça c'est fréquent?
C'est fréquent.
Et lui, ce patient pensait qu'il a plus que 15 ans?
Il a certainement 17 ans, 18 ans. 17, 18 ans.
Combien d'opérations prévues aujourd'hui?
Aujourd'hui, on a prévu 16 enfants à opérer, mais il y a un qui n'est pas rentré.
Et pourquoi il y en a un qui n'est pas rentré?
Est-ce que c'est parce qu'ils sont tellement reculés, ils n'ont pas pu y arriver? Pour quelles raisons exactement? Je saurais dire.
Vous êtes?
Ah, moi, je suis un infirmier du bloc opératoire et faisant partie de la mission.
Ici, à l'hôpital de Dapaon, comment vous trouvez les équipements par rapport aux autres hôpitaux régionaux que vous avez pu visiter lors de vos missions?
Alors, faudrait-il dire qu'ici, il faut encore revoir les équipements parce que ailleurs, on arrivait à faire 3 tables à l'aise. Mais ici, c'est difficile. On jongle pour faire les 3 tables, mais ce n'est pas encore bien. Ce n'est pas ça. Donc, il y a encore des choses à réparer.
Merci. Vous me redonnez votre nom?
Moi, c'est Marcel.
Merci, monsieur Marcel.
Je vous en prie.
Professeur Nassimbe, quel est l'intérêt de ces missions foraines dans le cadre du cursus des étudiants qui ont besoin de se faire la main et d'opérer donc?
Pour ce volet de formation à Lomé, nous avons en charge la formation de médecins, d'une dizaine de médecins qui sont là pour être formés, devenir des chirurgiens pédiatres. Et comme on le sait, le système de santé au CHU, le Sylvanus Olympio, pour ce qui concerne la prise en charge des patients, je peux vous le dire très rapidement, c'est que le patient arrive, et on lui demande des bilans préopératoires, il les fait, on lui prescrit les produits, il va en pharmacie, il les achète, et c'est quand il est prêt, après avoir acheté les produits, que nous le programmons. Et donc, compte tenu de la situation socio-économique, parfois les parents n'ont pas les moyens. Et donc du coup, le nombre de patients opérés au CHU est très bas. Donc on ne perd pas beaucoup comme quand on sort en mission foraine. Donc avec la chaîne de l'espoir, on a essayé d'initier ces missions foraines où les interventions sont totalement gratuites. Et ça permet aux médecins en formation d'opérer un grand nombre de patients. Donc, je crois que ces missions foraines sont un avantage pour la formation. Il y a des pathologies qu'ils ne verront jamais, ces médecins ne verront jamais à Lomé. Mais quand on sort, c'est l'occasion pour eux de découvrir ces pathologies-là.
Et vous pensez auxquelles, par exemple?
Les grosses hernies ombilicales où ils sont amenés, à part la cure de la hernie, à faire des ombilicoplasties, à faire des plasties au niveau de l'ombilic. Et comme vous avez pu constater ce matin, il y avait des enfants qui se présentaient avec de grosses hernies, ce qu'on ne rencontre jamais à Lomé. Et ça leur permet de savoir comment aborder le canal et à la fin, essayer de voir s'il faut drainer ou s'il faut pas drainer. Donc, c'est des astuces qu'ils n'ont pas à Lomé, parce qu'à Lomé, c'est des petites hernies qu'on rencontre le plus souvent. Voilà.
Igor Strauss, nous allons revenir à cette question cruciale de la formation des chirurgiens pédiatres. Mais d'abord, nous allons prendre quelques nouvelles des patients opérés.
En compagnie de Serge Metchiumbe, un chirurgien pédiatre béninois formé au Togo.
Bonjour papa. Comment ça va ce matin? La femme a bien dormi? D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il a bien mangé? Est-ce qu'il a vomi? Non, c'était un cas de hernie ombilicale et hydrocèle vaginale gauche qui avait été opéré. Bon, il n'y a pas de problème particulier.
Il a peur.
Son abdomen est souple, le scrotum est de volume acceptable. Donc, on va le laisser sortir et il va revenir le vendredi pour le pansement. Donc, papa, vous allez partir avec l'enfant. Le vendredi, vous allez revenir. Les médicaments qu'on vous a donnés sont très, très importants. Il faut que vous les donniez rigoureusement à l'enfant. Ça peut aller. Il y a des questions? Merci beaucoup.
Alors ici, il y a quand même un nombre de places limitées en post-opératoire. Oui, donc, ça vous incite à libérer un peu plus
tôt. Ça vous incite à faire sortir beaucoup de patients, surtout s'il n'y a pas de complications. Il faut dire que normalement, c'est des infections qu'on peut également opérer en ambulatoire. Hein.
C'est-à-dire donc, rentrer le matin et sortir le soir?
Exactement. Donc nous, on les a opérés hier et ce matin, on les fait sortir. Je pense qu'il n'y a pas de problème fondamental.
Voilà. Ah, ils sont pas dans la même chambre.
Merci. Bonjour, maman. Comment ça va ce matin? Maman, comment ça va ce matin?
Ça va très bien.
Il y a un sérieux problème particulier?
Non.
La femme vomit?
Non.
Ah, d'accord. Il se plaint de douleur? Est-ce qu'il pleure?
Il ne pleure pas.
Il ne pleure pas. On voudrait voir les plaies. C'est là. Bon, on va le surveiller. Donc le vendredi, vous allez partir à la maison. Le vendredi, vous allez revenir, on va lui faire le pansement. On vous a donné des médicaments. On vous a indiqué comment il faut les utiliser. Donc il faut les utiliser rigoureusement. Et on se revoit le vendredi. Est-ce qu'il y a des questions?
Non.
D'accord. Vous pourrez revenir vendredi, pas de problème?
Oui.
Vous habitez loin d'ici ou vous habitez où?
À côté de là.
Bon, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre enfant opéré en bonne santé?
Je suis tellement contente et je remercie beaucoup à la mission. On rend grâce à Dieu comme il a la santé. Bon, c'est bon. Et je les remercie beaucoup.
C'est vous qui êtes encore là ce matin? Il faut bien passer les consignes à votre remplaçante. Merci beaucoup et bonne
journée. Donc, c'est vous qui surveillez tous les malades?
J'ai fait la garde hier soir. Déjà à 17h, j'étais déjà là.
Ça s'est bien passé la nuit?
Oui, ça s'est bien passé.
Tous les parents, ils dormaient ici avec les enfants?
Oui, les parents, ils étaient là avec les enfants. S'il y a un problème, ils viennent m'appeler, ceci, cela. Donc, je viens voir ce qui ne va pas. Donc, s'il y a des calmants, je les donne, les calmants. Donc, après ça, ils dorment.
Et là, on voit, il y a un nombre de lits limité. Hein. Donc, comment ils dormaient où les parents? Ils faisaient comment pour dormir?
Certains avaient étalé des nattes pour se coucher à côté de leur enfant aussi. D'autres aussi, c'était avec les pagnes. Comme il n'y a pas de lit, c'était avec les pagnes.
Chacun se débrouillait, quoi.
Voilà.
Igor Strauss, le Togo, comme de nombreux pays africains, manque cruellement de chirurgiens pédiatres.
Oui, aujourd'hui, il n'y a que 5 chirurgiens pédiatres dans le pays. 4 sont à Lomé et 1 est à Anéo, sur la côte, à 80 km de la capitale. Un vrai problème, selon le professeur Niasingbe, chef du service pédiatrique du CHU Sylvanus Olympio de Lomé et en charge de la formation des chirurgiens pédiatres au Togo.
Concrètement, il faut au moins un chirurgien pédiatre dans chaque région du pays. Nous en avons 5 régions. Il faut au moins un chirurgien pédiatre pour commencer, un chirurgien pédiatre dans chaque région. Ce n'est pas le cas. Et ce qui fait que dans les régions ou dans les hôpitaux, c'est les chirurgiens généralistes qui s'occupent des enfants dans des conditions parfois très difficiles.
Alors le diplôme existe, donc comment expliquez-vous ce manque d'intérêt finalement pour la chirurgie pédiatrique?
En fait, ce n'est pas un manque d'intérêt. En ce moment où je vous parle, l'inscription est à 500 000 francs pour s'inscrire dans une spécialité. C'est pratiquement dans toutes les spécialités. Les Togolais n'ont pas les moyens pour aller s'inscrire, payer 500 000 francs chaque année pendant 5 ans pour les spécialités de chirurgie.
Il n'existe pas de bourse pour aider ces étudiants?
Non. Il n'y a pas de bourse dans mon pays. Ils sont obligés de travailler faire une petite économie et revenir se spécialiser. Il faut que l'État accompagne les gens en sachant que le pays a besoin de ces spécialistes-là. Il faut que l'État accompagne les gens. Je crois que ça, c'est vraiment important pour le développement d'un pays.
Le DES, le diplôme d'études spécialisées qui permet de devenir chirurgien pédiatre en 5 ans, existe au Togo depuis 2013. Edem Bikor est étudiant en deuxième année.
Il faut dire que les difficultés sont vraiment énormes. D'abord, l'université nous considère comme des médecins et à qui ne donne pas de bourse. Et deuxième chose, le CHU dans lequel on travaille, dans lequel on se forme, qui nous considère comme des étudiants et donc pas de salaire aussi.
Donc le CHU de Tokoan, vous ne percevez aucun salaire?
Rien du tout. À part les gardes que nous faisons, qui sont payés à 5000 francs CFA la garde.
Pourquoi une garde de 12 heures ou de combien d'heures?
De 24 heures.
24 heures.
Voilà, donc il faut dire que tu fais environ 5 à 6 gardes dans le mois. Donc avec 30 000 francs ou 25 000 francs, tu ne peux absolument rien faire. Et donc voilà, on se débrouille parce que la spécialisation même en soi ne te donne pas le temps. Puisqu'on est en CHU pratiquement tous les jours, de 7h30, le minimum c'est, quand tu rentres tôt, c'est peut-être 15h, 16h. Donc ça ne te donne pas le temps d'aller peut-être travailler ailleurs pour survivre en fait. Donc c'est vraiment les parents qui nous aident encore un peu, et puis avec ce qu'on fait de gauche à droite, mais un grand garçon qui est médecin, qui tend encore la main à ses parents, c'est assez difficile pour nous. Et surtout nous encore, moi encore plus, j'ai deux enfants, donc c'est assez compliqué pour nous.
Et comment expliquez-vous justement que vous soyez considéré comme un professionnel au niveau de l'université, mais comme un étudiant au niveau du CHU?
C'est le paradoxe, personne ne comprend cela. Vraiment, c'est compliqué. Quand vous prenez un peu le pourcentage de Togolais qui sont dans le DES en général, que ce soit en chirurgie pédiatrique, en cardio, en pneumo, les Togolais sont très peu nombreux à cause de ce problème-là justement. Et j'avoue que des fois, c'est un peu décourageant. Tu as envie d'abandonner, mais bon, tu te dis, tu as déjà commencé, mais donc il faut finir. C'est ça.
Voilà ce que nous vivons.
C'est un gros problème, professeur.
Un gros problème. Je crois qu'il faudrait que le ministère de la Santé du Togo puisse vraiment faire le point et savoir qu'est-ce qu'il veut pour le futur sur le plan sanitaire de notre pays. Parce que c'est inconcevable que des gens puissent, après le doctorat, avoir envie de se spécialiser. Parce que dans tous les pays, aujourd'hui, quand vous prenez la France, vous prenez la chirurgie pédiatrique par exemple, les gens ne sont plus à la chirurgie pédiatrique générale. Et ils sont nombreux, tellement que des gens se disent, moi je ferai de la neurochirurgie. Celui-là dit je fais de l'orthopédie traumato, l'autre dit je fais de l'urologie. Mais nous, on a juste besoin que des gens soient des chirurgiens pédiatres généralistes pour s'occuper de tout, de la tête jusqu'aux pieds des enfants. C'est tout ce qu'on demande. Et je crois que ça ne devrait pas être difficile, c'est juste d'encourager les gens. Hein? On ne peut pas demander à quelqu'un qui est sorti, qui a envie de se spécialiser, d'aller le faire à ses frais. Ce n'est pas possible. Pourquoi ne pas planifier tout ça? On ne demande pas de former 100 médecins, 100 spécialistes en 5 ans, non. Mais faire une planification, essayer de s'organiser pour que dans 5 ans, qu'on se dise, on a besoin de tel nombre de médecins, tel nombre de chirurgiens pédiatres, tel gynécologue, tel traumato. Moi, j'étais au Bénin, c'est le ministre même de la Santé qui est venu annoncer publiquement qu'ils ont des bourses pour telle et telle autre formation post-doctorale. Et il demandait aux gens, ceux qui veulent, donc à postuler. On est avec des Burkinabés. L'État burkinabé a créé carrément une direction chargée de gérer les étudiants à l'étranger. Et ils sont pleins partout en Afrique. Ils ont une bourse. À près de 300 000 francs, ils sont pris en charge totalement. Pourquoi nous, on ne le ferait pas dans notre pays? Et je crois qu'il faudrait qu'on se réveille.
Le coût exorbitant du diplôme d'études spécialisées n'est malheureusement pas le seul problème des étudiants en chirurgie. Passer cet obstacle, un autre les attend et de taille trouver un emploi. Le docteur Eudes Goudjot a passé son diplôme à Lomé grâce à un financement de la chaîne de l'espoir. Il est aujourd'hui chirurgien pédiatre, mais chômeur au Bénin après 12 années d'études.
Ce qui est dommage dans nos pays, c'est que nous n'avons pas un plan de formation, surtout dans le système de santé. C'est qu'arrivé à un moment donné, les politiques doivent se demander quels sont les genres de spécialistes qu'ils doivent avoir pour ce secteur-là. D'abord, il faut définir ça. Il faut définir le nombre de postes, puisqu'il y a beaucoup d'hôpitaux au Bénin qui n'ont pas vraiment... Certains n'ont pas de médecins, d'autres n'ont pas de spécialistes. Et donc, il faut que les politiques puissent se dit que bon, il nous faut un plan de formation, on veut des chirurgiens pédiatres, on veut des chirurgiens généralistes, des traumatologues, et qu'ils ouvrent des postes. Tout commence à partir de là. Et donc, s'ils ouvrent ces postes-là, ils doivent pouvoir accompagner la formation de ceux qui veulent faire ces spécialités-là. Et donc, au retour, ils doivent pouvoir les intégrer. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de plan de formation. Ceux qui se débrouillent comme ils peuvent pour aller faire la spécialité, quand ils reviennent, c'est difficilement qu'ils arrivent à s'intégrer. On nous dira que bon, il y a un problème financier, que l'État n'a plus vraiment la possibilité de payer les médecins et tout, qu'il faut attendre. Ce qui fait que, à la fin de compte, il y a beaucoup de nos jeunes confrères, de nos aînés qui finissent. Et ils reviennent au pays, ils sont heurtés à cette difficulté-là de s'intégrer. Et puis, en fin de compte, ils disparaissent du pays, ils voyagent, ils vont travailler dans d'autres pays. Et c'est comme ça commence. Le souci même, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas encore la chirurgie pédiatrique. Parce que, bon, pendant longtemps, c'est les chirurgiens d'adultes qui ont toujours opéré les enfants. Mais bon, en tout cas, il y a beaucoup d'événements qui ont prouvé leurs limites dans la prise en charge des enfants. Donc, ça veut dire que la chirurgie pédiatrique a une place vraiment importante dans tous les services de chirurgie. Et donc, on se demande pourquoi nos politiques ne veulent pas faire d'efforts en ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant est au centre même de la santé. Donc, je pense que nos autorités ne doivent pas seulement se cantonner sur le paludisme, la rougeole, et puis toutes les maladies virales qu'on connaît. Mais il y a aussi les pathologies chirurgicales pédiatriques qui sont aussi responsables d'une mortalité néonatale ou périnatale importante. Donc, je pense que nos autorités doivent revoir un peu leur politique. C'est très important. C'est très important.
Merci beaucoup.
Merci, monsieur Hugo. Merci à vous.
Merci Igor Strauss pour ce reportage réalisé par Didier Bleu. Demain, dans Priorité Santé, avec nous, le docteur Catherine Solano, sexologue. Questions d'auditrices et d'auditeurs sur les thèmes que vous aurez choisis. Bien sûr, pour nous contacter, notre page Facebook. Et pour nous joindre, le numéro de l'émission, 33 1 84 22 75 75. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.